m'avez manqué.
Je vais ce soir vous faire désirer et aimer la République.
La bête de l'événement est là.
La République, c'est moi.
Je vous demande de vous arrêter.
Non, il ne faut pas tomber dans un extrémisme extrême.
Non, je le dis avec courtoisie, mais...
Oui. Avec courtoisie,
Ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin.
Il y a des gens qui n'ont pas envie d'être métissés, monsieur Attali, excusez-les.
Calme ! Au secours !
Voilà, bah c'était un peu l'envie de vomir sur ces ordures. Enfin, pardon.
Vous êtes sur Radio Courtoisie. Bienvenue sur Radio Courtoisie, bienvenue dans Restons Courtois, que j'animerai seul aujourd'hui parce que voilà, mes amis sont en vacances, mes camarades sont en train de travailler. Voilà, je suis veuf, je suis seul et sur moi le soir tombe, comme disait Victor Hugo. Mais je suis quand même très bien accompagné puisque d'abord je recevrai Arnaud Gaget qui a écrit La tyrannie de la bienveillance, un livre argumentaire tout à fait intéressant sur la faillite de la gauche et la manière dont la gauche peut être prise au jeu de ses propres contradictions. Ensuite, dans un genre totalement différent, c'est un peu l'assiette anglaise ce soir, nous recevrons Laurence Varro pour son petit roman à l'affiche. Je dis petit parce qu'il est mince, mais c'est un ouvrage subtil, d'une écriture raffinée, qui décrit une histoire charmante, c'est un vrai roman à la française, c'est un roman psychologique et en même temps un roman ministériel. Bref, elle vous l'expliquera. Et enfin, quand même, c'est une émission politique, nous débattrons avec Xavier Van Lierde, Pierre-Alexandre Bouclet et Bertrand Saint-Germain de la condamnation de Marine Le Pen. C'est le fait majeur politique d'aujourd'hui, voilà, de 18h30 à 19h30. Cette première heure sera donc sous le signe de la bienveillance, c'est un peu ironique, et la deuxième sera sous le signe de la haine. Non pas que nous soyons animés de haine, mais on voit bien qu'il y a une certaine haine de la démocratie dans la manière dont Marine Le Pen a été condamnée. Arnaud Gaget, bonjour.
Bonjour.
Voilà. Vous avez écrit La tyrannie de la bienveillance, ou comment l'idéologie a tué la volonté. Voilà, c'est un livre qu'on peut commander sur Amazon, tout simplement.
Exactement, en auto-édition.
Voilà. Alors, c'est un livre tout à fait intéressant, parce que vous avez décidé de coucher par écrit tous les arguments que vous aviez envie de lancer dans la conversation lorsqu'on vous expliquait « mais si, Macron est génial, mais tu ne comprends pas, le Parti Socialiste a sauvé la France ». Enfin, bref, il y avait des gens qui tenaient absolument à vous prouver que la France allait très bien, vous aviez une impression vraiment contraire, et donc vous avez décidé d'attaquer le problème.
Exactement, c'est lorsque j'ai voulu débattre avec des amis, souvent en soirée, ça parle. Moi, ce que j'ai voulu faire, c'était clair dans ma tête, mais j'arrivais pas à lister toutes les incohérences qu'il pouvait y avoir par rapport à la gauche, à l'idéologie de gauche depuis ces 50 dernières années. Donc du coup, ce que j'ai voulu faire, c'est pouvoir lister... pas toutes les incohérences, parce que sinon, faudrait faire plusieurs tomes. mais au moins, que ce soit assez exhaustif pour montrer que sur tous les sujets, que ce soit sur l'énergie, que ce soit sur les finances, que ce soit sur le social, que ce soit sur l'immigration.
L'école, le logement.
Ouais, l'école, le logement, le transhumanisme, enfin voilà, tout ça. On voit que la gauche, s'est complètement perdue et s'en mêle les pinceaux. Donc il y a tous les arguments pour retourner, même les arguments de la gauche.
Voilà, la gauche s'est perdue. Alors, on peut le dire, voilà, c'est une gauche qui s'écarte, qui est large. Hein, vous y englobez ce qu'on appelle aujourd'hui le centre. Ce qui est tout à fait intéressant, c'est que vous partez d'exemples concrets. Et donc, ce ne sont que des sources vérifiées et vérifiables que vous donnez. Autrement dit, si les gens ont envie de s'intéresser à la manière dont la municipalité de Grigny est gérée, et pourquoi est-ce que Grigny sera un exemple, on y reviendra, ils peuvent. Et donc, une fois de plus, j'ai lu ce livre avec intérêt, parce que donc les idées sont des idées de droite, et elles sont bien exprimées, mais la richesse en fait de la documentation est tout à fait intéressante. On a l'impression, mutatis mutandis, de la France orange mécanique, mais on n'est pas uniquement en train de parler de faits divers sanglants, parce que malgré tout c'est un peu bref. Non, on parle de finances locales, on parle de finances publiques, on parle d'investissement étatique, on parle de l'état du chômage, bref, on donne des chiffres, on donne des faits. Et il y a une personne qui nous accompagne tout au long de ce livre, c'est Aurélie. Aurélie a 35 ans, elle est aide-soignante à l'hôpital public Donné-sous-Bois en Seine-Saint-Denis. Elle gagne 1450 euros net par mois. Elle élève seule son fils de 7 ans dans un appartement HLM de 3 pièces. Sa Renault Clio diesel a 12 ans. Elle a voté Mélenchon en 2017, en 2022, en 2027 avec un peu de malchance. NFP en 2024. Elle n'a jamais voté pour autre chose que la gauche. Aurélie n'est pas un personnage, c'est une donnée statistique. Ses revenus, son métier, sa localisation, sa situation familiale, son vote, tout cela correspond exactement au profil moyen de l'électrice populaire de gauche en France, établie à partir des enquêtes Cevipof, etc. Elle existe par millions, elle a différents prénoms, elle vit dans différentes villes, elle vote toujours pareil. Ce livre lui est adressé, pas pour la condamner, pour lui montrer ce que ses votes ont produit dans sa rue, son hôpital, dans la salle de classe de son fils, pour lui poser la seule question qui vaille. Est-ce que le bilan correspond à la promesse? Et ça, c'est tout l'objet du livre. En fait, vous opposez la manière dont la gauche promet des lendemains heureux, vote des lois qui sont censées nous rendre tous contents et satisfaits, et en fait, à chaque fois, aboutit à un petit enfer supplémentaire.
Exactement, parce que si on prend chaque loi ou chaque idée que la gauche a de manière individuelle, c'est beau de vouloir plus de justice sociale, de dire qu'il n'y aura plus personne qui dormira dans la rue, qu'il faut augmenter le SMIC. En fait, toutes ces idées sont bien d'un point de vue unique, enfin d'un point de vue individuel, mais en fait, il n'y a pas toute la compréhension du système qu'il y a derrière. C'est-à-dire que Aurélie, qui, avec sa voiture critère 4, elle a voté Mélenchon pour plus de justice sociale. Mais du coup, qu'est-ce qu'elle a en retour? Vu que les critères 4 aujourd'hui sont interdits dans les grandes agglomérations, quand elle se lève à 5 heures pour aller travailler, sachant qu'il n'y a pas de bus, elle ne peut même pas aller travailler parce qu'elle ne peut même pas utiliser sa voiture. Donc c'est tout l'intérêt du livre de montrer que là où chaque intention... Et c'est là tout le système de la tyrannie de la bienveillance, c'est que là où chaque intention individuelle est bonne, au final, quand on prend la globalité, on voit que l'idéologie de gauche ne réfléchit pas en système. Donc du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu faire une autopsie clinique, en fait, de ce qui était de la situation d'aujourd'hui, pour pouvoir expliquer ça un petit peu à tout le monde.
Alors, d'un côté, l'idéologie de gauche ne réfléchit pas en système. Elle identifie un certain nombre de points, alors qui sont parfois plus ou moins criants de vérité. Effectivement, la France est polluée, luttons contre la pollution. Parfois un peu moins excitant ou un peu moins dangereux. Le masculinisme est, paraît-il, une plaie. On n'a pas l'impression que le dernier rapport sénatorial ait établi fermement que le masculinisme était au moins aussi dangereux pour la société française que l'immigration. Donc la gauche a identifie les points où elle veut agir, produit une loi et ensuite s'étonne systématiquement des conséquences de la loi. Par exemple, prenez l'industrie. La gauche a érigé la lutte contre la pollution en étendard. Elle a adopté des normes environnementales toujours plus strictes, rendu le droit du travail toujours plus contraignant, accumulé les taxes sectorielles jusqu'à rendre certains secteurs non viables sur le sol français. Les usines ont fermé. Les mêmes qui avaient voté les lois qui les rendaient inévitables descendent dans la rue pour dénoncer les licenciements. Ils interpellent les ministres. Ils réclament que l'État sauve l'emploi. C'est typique de ces incohérences que vous dénoncez.
Exactement. Sur tout le livre, en fait, c'est que des exemples comme ça. Mais quand on revient sur le système, en fait, quand on revient sur l'idée de système, c'est que depuis mai 68, la gauche est rentrée dans toutes les strates dans toutes les strates du pays, que ce soit dans les associations, que ce soit à l'école, que ce soit dans les ministères, que ce soit dans les même les agences de l'État. Aujourd'hui, la gauche est de partout sans que la droite n'a rien fait. Donc après, je dénonce aussi bien évidemment le côté droite molle, parce que il n'y a pas que la gauche qui a gouverné depuis Mitterrand, mais on voit que depuis 52 ans, il n'y a pas eu aussi un budget à l'équilibre, ce qui fait qu'on se pose des questions sur pourquoi, où va notre argent, pourquoi on paye toujours de plus en plus cher. Là, c'était l'exemple des usines, mais il y a aussi l'exemple donc du nucléaire, il y a l'exemple aussi, parce que voilà, ce que je voulais dire, l'idée principale, c'était que ça parlait justement d'un système, l'argent qui est donné aux associations pour danser dans la rue à Paris, par exemple. Il y a une association qui a eu 234 000 euros de subvention pour danser sur les
passages piétons, oui.
Voilà, sur les passages piétons. Donc en fait, cet argent non seulement est gaspillé, ne sert à rien, on dit qu'il n'y a plus d'argent, et après, la gauche s'étonne que lorsqu'on veut remettre en place une certaine activité économique, on ne peut plus rien faire. Parce qu'aujourd'hui, avec les malus aussi des voitures, on ne peut plus s'acheter de voitures, il y a tout plein de... Le fait qu'on ne puisse plus construire de logements, le prix des logements et des appartements est tellement haut que ce n'est plus possible de s'acheter des appartements. Enfin voilà, c'est tout un système que je démonte.
Alors, et vous dites d'ailleurs, la France ne tombe pas, elle choisit de tomber. Et c'est la thèse de votre livre et c'est un peu le paradoxe. C'est-à-dire, d'un côté, on voit bien que les lois bienveillantes aboutissent à l'effet inverse. Vous parliez du logement, voilà, on explique qu'il y a des passoires thermiques et que c'est une honte de louer des passoires thermiques. Donc du coup, on retire ces passoires thermiques qui n'étaient pas chères à la location du marché de la location sans construire de nouveaux appartements qui ne seraient pas des passoires. Et donc, on se retrouve avec des gens qui n'arrivent plus à se loger ni dans des passoires thermiques, ni dans des appartements qui n'existant pas, évidemment, sont difficilement louables. Et donc, à chaque fois, crise du logement uniquement parce qu'on a voulu être vertueux avant de se donner les moyens de cette vertu.
Oui, mais c'est tout l'exemple, en fait, c'est la différence entre un déclin et une décadence. C'est-à-dire que le déclin est continu par l'émergence de nouvelles sociétés, le fait qu'on ne s'occupe plus des frontières, enfin comme l'Empire romain, par exemple, a pu décliner. La décadence, en fait, c'est un choix. C'est un choix, c'est-à-dire que par plein de petites actions, comme vous venez de le dire, en fait, c'est par plein de petites actions où on a décidé de dire, bon, bah, stop, au final, on va choisir de rendre la France décadente et de partir, comment dire, sur des sujets qui ne concernent même pas l'avenir du pays, l'avenir des prochaines générations. On va juste s'occuper de l'instant T. Parce que si on reprend même l'exemple de l'écologie, c'est bien beau de se dire que le nucléaire, c'est pas bon pour l'environnement, que même si c'est décarboné, ça fait chauffer les rivières. Mais bon, ce qu'il faut savoir, c'est que derrière, il n'y a que 10 réacteurs nucléaires sur les 58 qui utilisent des rivières et qui réchauffent l'eau des rivières. Sinon, toutes les autres centrales nucléaires fonctionnent bien. Aussi, la gauche ne veut pas de méga-bassines, mais on voit qu'après, là, avec la canicule, on voit qu'on manque d'eau.
Et que la gauche, à ce moment-là, dénonce la crise hydrique.
Oui, voilà, c'est ça, dénonce la crise hydrique.
Après avoir interdit les retenues.
Oui. C'est ça. Donc en fait, c'est par toutes ces actions que ce n'est pas un déclin, c'est une décadence. Je pourrais aussi partir sur l'industrie. L'industrie, nous, on a perdu notre part de l'industrie dans le PIB, a été divisée par deux, et aujourd'hui environ à 10%, alors que l'Allemagne est passée de la même période, entre 90 et aujourd'hui, de 20 à 18%. Donc en fait, on voit bien que c'est pas global. Il y en a qui font dire que c'est la mondialisation, mais on voit bien que c'est pas global, c'est un fait.
Ce sont des choix.
Ce sont des choix français et purement français.
Alors, et des choix qui, à chaque fois, c'est tout l'objet du livre, sont au nom de la bienveillance, c'est-à-dire pour améliorer la pénibilité du travail, pour améliorer la qualité de l'air, pour améliorer le vivre ensemble. Enfin, à chaque fois, une fois de plus, on nous promet toujours des lendemains chantants, des rues riantes, des gens heureux. Et c'est pour ça qu'Aurélie vote à gauche. Aurélie est l'exemple de cette trahison. Elle vote à gauche parce qu'elle veut des services publics forts, un SMIC plus haut, un hôpital qui fonctionne. Ce sont des aspirations légitimes. Ce sont exactement les aspirations que la gauche capture depuis 40 ans et qu'elle transforme en carburant pour un système dont le premier bénéficiaire n'est pas Aurélie. C'est le réseau associatif, le fonctionnaire territorial, l'élite intellectuelle subventionnée. Aurélie vote, les autres encaissent. Et là, il y a quand même une certaine hypocrisie. C'est pas juste utopique, c'est le système s'entretient en fait.
Exactement, le système s'entretient. Quand on prend par exemple le RSA, qui a été mis en place en 2009 pour permettre aux gens de subvenir à leurs besoins, même s'ils touchent pas le chômage et même s'ils ne sont pas dans la société, pour pouvoir les réinsérer. Il y a une étude qui est passée qu'au bout de 7 ans, il y a que 34% de ces personnes-là qui ont trouvé un travail in fine. Et la gauche a tout intérêt à les garder dans ce système-là, parce que un système qui s'entretient, ce sont des électeurs de gagnés. Quand Coluche, avec les Restos du Cœur, voulait que les Restos du Cœur s'arrêtent l'année d'après, en fait, c'est ça le principe de la gauche, c'est qu'elle va disparaître si jamais elle résout tous les problèmes. Donc elle a intérêt à les maintenir pour garder son électorat.
Alors, et vous allez plus loin, vous dites, voici une règle que personne n'ose énoncer clairement en politique et qui est pourtant d'une logique implacable, celui qui gouverne par la compassion a besoin que la misère dure.
Exactement. Bah, c'est ce que j'expliquais.
Le livre est rempli de formules bien frappées.
Oui, bah, c'est le but, c'est de pouvoir montrer que la gauche fait tout ça non pas par envie que la France s'améliore, parce que si on veut que la France s'améliore, il faut faire des choix, il faut faire des choix durs. Quand on parle des retraites, c'est bien beau de vouloir mettre la retraite à 60 ans, mais bon, et c'est là tout le système, quand on regarde nos finances, est-ce qu'on peut se le permettre ? Non. Mais c'est beau la retraite à 60 ans, mais est-ce qu'on peut le faire ? Non. C'est pareil, c'est bien beau des voitures électriques, mais est-ce qu'on peut se les payer ? Non. Et c'est tout des systèmes, c'est toutes des lois comme ça ou des idées qui amènent que, en fait, le système de l'idéologie de gauche s'entretient, en fait, en mettant une carotte, en disant ça va aller mieux, mais tout en continuant à intégrer de la misère au sein de la société.
Alors, vous le redites avec une petite parabole. Un médecin guérit ses patients et les perd, un avocat gagne ses procès et voit ses clients partir, un professeur réussit quand ses élèves n'ont plus besoin de lui, un système politique qui fonde sa légitimité sur la défense des faibles a un intérêt structurel à ce que les faibles restent faibles, leur émancipation et sa mort électorale, leur dépendance et son fonds de commerce. Et là, on a vraiment l'impression que c'est la tactique de Terra Nova dans un premier temps et celle de la France Insoumise dans un deuxième temps. Il faut identifier une population qui a absolument besoin, non pas de la France, mais d'un parti pour faire en sorte que la France se mette à leur service exclusif.
Oui, bah, si on reprend, c'est tout l'intérêt, et là je ressortirai aussi autre chose du livre, c'est quand je parle du colonialisme, il faut savoir que le colonialisme est une idée de gauche. C'est Luc Ferry, républicain de gauche, qui a décidé de la colonisation pour pouvoir éduquer les races inférieures.
C'est une citation, il est important de le dire, si les censeurs nous écoutent, nous sommes en train de citer un des papes de la gauche qui parle des races inférieures.
Exactement, et du coup c'est comme ça qu'on est allé en Afrique et qu'il y a eu la colonisation française, mais encore là c'est une idée de gauche pour pouvoir éduquer les populations dites faibles, et ce que LFI fait aujourd'hui, c'est qu'en victimisant à chaque fois la population minoritaire, en fait, elle va pouvoir les garder sous la main en disant bah, « en fait, vous avez besoin de nous pour pouvoir exister », alors que si on leur permettait juste de... On leur donnait la possibilité de vivre déjà, au lieu de les abreuver d'impôts, on leur donnait la possibilité de vivre, on leur donnait la possibilité de faire ce qu'ils veulent et non pas les rabâcher à chaque fois à leurs origines, et ben, en fait, ça permettrait de pouvoir les émanciper, de pouvoir vivre leur vie et ils n'auraient plus besoin de LFI pour exister.
Alors, dans votre livre, vous parlez évidemment de la manière dont c'est amusant que vous ayez parlé de colonialisme, vous parlez du néocolonialisme de la bienveillance. Et le système repose sur un paradoxe que la gauche n'a jamais voulu regarder en face. Pour gouverner par la compassion, il faut maintenir la blessure ouverte, il faut entretenir la dépendance pour conserver le prescripteur. Le prescripteur, c'est celui qui vote. Il faut s'assurer que les objets de notre compassion demeurent dans l'état qui le justifie. Voilà, c'est la nature exacte du néocolonialisme, non pas celui des canonnières et des comptoirs, celui infiniment plus subtil de la tutelle morale perpétuelle. Vous ne serez jamais assez fort pour vous passer de nous, vous ne serez jamais assez guéri pour ne plus avoir besoin de notre bienveillance. On a dressé, si j'ose dire, le mécanisme électoral de la gauche, c'est-à-dire celle qui prétend avoir le monopole de la bienveillance. Et en même temps, et c'est là où le livre, donc après cette analyse qui assez indiscutable du mécanisme psychologique qui fait que les gens ont envie de voter à gauche parce qu'on leur promet la lune, c'est l'examen attentif des succès de la gauche. Et là, vous êtes, puisque vous le disiez tout au début, dans la question que vous posiez à Aurélie, est-ce que le bilan correspond à la promesse? Est-ce que la gauche, avec toutes ces lois qu'elle a fait passer, a réussi à faire en sorte que les choses aillent mieux, à ce que les blessures soient guéries, à ce que les faibles soient un peu moins faibles?
Ce que je disais avant, c'est qu'il faut que ce soit un système qui s'entretient. Et le système s'est entretenu bien avec Mitterrand, ce qui fait que quand il est arrivé en 81, il a pu subventionner les journaux. Subventionner les journaux, subventionner les associations, pendant que la droite, elle, ne faisait rien du tout. Donc, ce qui a permis déjà de pouvoir mettre dans les pensées aussi de gauchiser l'éducation nationale. Donc, ce qui a permis d'intégrer dans les pensées que la France, elle est mauvaise, la France, elle est mal, la France, elle déteste, elle vous déteste. Donc, c'est sûr que quand quelqu'un qui est issu de la diversité va à l'école et qu'on lui rabâche sans cesse que la France, c'est colonialiste, que Napoléon il a rétabli l'esclavage, que de toute façon ils seront discriminés à l'embauche, ce qui fait que ça les met dans un système où ils vont forcément se tourner vers ceux qui leur promettent la liberté, alors qu'ils vont entretenir leur haine et leur rage au lieu de pouvoir juste les faire au lieu d'être indifférents à leur couleur de peau ou à leur religion, ils vont mettre ça en avant pour insister sur cette blessure et ne pas la corriger. En fait, ils ne vont rien faire, ils vont entretenir ça pour toujours avoir plus de clientèle.
Alors, ils l'entretiennent et en même temps, donc, quitte à tordre le cou à la réalité, quitte à se détourner des faits qui sont pourtant têtus. Et par exemple, vous citez les grandes villes gérées par la gauche depuis des décennies affichent les taux de pauvreté les plus élevés de France. Et ça, c'est les données INSEE Philosophie 2021. Donc voilà, donc c'est l'Institut National de Statistique de l'État qui donne ces données. Roubaix est pauvre à 46%, Grigny à 44%, etc. Bobigny, géré par le PCF pendant près d'un siècle, La Courneuve, gérée pendant 30 ans par, sous Gilles Pou par le PCF, Bobigny 36% de pauvreté et La Courneuve 42% de pauvreté. Et vous dites en face, Neuilly-sur-Seine, moins de 5%, Versailles, 8%, Annecy, 10 à 12. Le rapport atteint de 1 à 9 entre Grigny et Gif-sur-Yvette, dans le même département de l'Essonne, à 20 km l'une de l'autre. L'objection prévisible, la gauche gouverne des villes pauvres, puisque les pauvres votent à gauche, pas l'inverse. L'argument tient dans sa logique, mais il s'effondre à l'examen longitudinal. Roubaix était au 19e l'une des capitales du textile européen, ville industrielle prospère et peuplante. Elle passe sous gestion socialiste continue à partir de 1912. Voilà. Donc, autrement dit, non, la gauche, en fait, n'est pas capable de gérer correctement une ville. La gauche n'a pas été capable de gérer l'industrialisation, elle n'a pas été capable de gérer la désindustrialisation. La gauche, depuis plus de 100 ans, à Roubaix, échoue dans les grandes largeurs. J'avais un verre beaucoup plus grossier au bord des lèvres.
Elle échoue et puis en fait elle se base sur le ressentiment du changement. C'est que après ça fait 100 ans que Roubaix est à gauche, mais par exemple quand on a mis en place les retraites, les toutes premières retraites, c'était en 1921 il me semble, quand on a mis en place les toutes premières retraites, bah forcément quand il y a du changement, les gens pensaient qu'on allait leur voler l'argent, qu'on allait qu'ils allaient pas revoir quelque chose, donc en fait ils râlaient et alors que c'était dans un système de redistribution, c'était différé. Et non, c'était la gauche à l'époque qui disait non, on nous vole notre argent, on ne veut pas de retraite. Et maintenant, on voit que la gauche veut la retraite à 60 ans. Non, ce qu'on voit, c'est que non seulement la gauche ne sait pas gérer, mais qu'en plus, ce n'est pas dans son intérêt de savoir gérer une ville ou un département ou un pays.
Alors, vous citez des chiffres de déficit absolument astronomiques, qu'il s'agisse de la France, de certains de communes, etc. Et avec à chaque fois la même réponse de la part de ceux qui ont creusé le déficit, on ne pouvait pas faire autrement, ou on ne va pas s'arrêter à ça, ou bien ces dépenses étaient absolument nécessaires. C'est très surprenant cette idée en fait que l'argent est à la fois quelque chose de sale, il ne faut pas que les gens en gagnent, le capitalisme c'est méchant. Et en même temps, c'est absolument nécessaire. Il faut au contraire pouvoir le distribuer et le dépenser n'importe comment. Là, ça fait partie de ces paradoxes que la gauche adore.
Oui, bah, non seulement elle n'aime pas l'argent, mais elle n'aime pas l'argent quand l'argent n'est pas à elle. C'était dans un livre, c'est la personne de droite est avare avec son argent, mais la personne de gauche est généreuse avec l'argent des autres. Je trouve cette phrase très vraie parce qu'on voit que les seuls partis qui veulent faire des économies sont vraiment à droite. Il n'y a aucun parti de gauche qui propose de réduire le nombre de fonctionnaires,
de diminuer les subventions aux associations.
Ouais, ça, aux associations ou même aux journaux. Aux journaux, quand on voit que l'Humanité a 6 millions de subventions par an, qui en fait le journal le plus subventionné de France, alors qu'il a presque aucun lecteur, il ne vit que par ça. Alors que les médias de droite n'en ont pas, c'est ce que je disais, c'est quand la gauche a investi les journaux, l'école, les associations, c'est ce genre de choses. Et c'est pour ça que la droite n'est pas en reste, parce que la droite aurait pu, quand elle était au pouvoir, changer justement ce système-là, que ce soit avec Chirac, que ce soit avec Sarkozy, au final, elle n'a rien fait. Elle a laissé cette décadence en fait, se faire, tout simplement, le poison se répandre, sans jamais contrecarrer. Elle aurait pu donner beaucoup plus de subventions, je ne sais pas moi, au Figaro, par exemple.
Ou supprimer toutes les subventions à tous les journaux.
Voilà, ou supprimer toutes les subventions à tous les journaux, supprimer le service public à la télé. Voilà, elle aurait pu agir et pourtant elle n'a rien fait, elle a continué parce qu'après elle s'est fait prendre au piège de la gauche sur, et c'est là où la gauche est très forte, hein, c'est sur et le fait qu'on voit qu'elle dirige un petit peu le pays depuis 40 ans, c'est sur la partie sémantique. sur la partie sémantique, c'est que dès que quelqu'un va dire quelque chose qui n'est pas, on va dire, en accord avec l'idéologie de gauche, bah, elle va se faire traiter de fasciste, elle va se faire traiter de nazi. Donc, ce qui fait qu'on va pas pouvoir... en fait, la personne de droite, par exemple, quelqu'un qui est chez LR, va directement s'excuser au lieu d'assumer ses propos. Alors qu'elle a dit qu'il faut juste enlever 100 000... Bah, même, par exemple, on peut même aller au centre. Gabriel Attal, récemment, a dit on veut supprimer, il veut supprimer 100 000 fonctionnaires. Voilà. Et bah, ça y est, à gauche, ça a crié au fascisme parce que supprimer 100 000 postes, qu'est-ce qu'on va faire ? En fait, la gauche n'arrive pas à savoir quels postes aussi vont être supprimés. On dit 100 000 fonctionnaires. Eux, ils pensent tout de suite aux infirmières, ils pensent aux policiers, alors que non, il y a des postes dans les bureaux qui n'ont rien à faire là. Et en fait, cette gauche n'arrive pas à réfléchir sur le pourquoi du comment. Et comment on
ou
va
plutôt,
faire
la gauche sait bien que ces fonctionnaires font partie de son réservoir électoral
et que
ce système de contrôle a besoin de bureaucrates pour faire en sorte que le contrôle demeure. Il nous reste à peine quelques minutes. Arnaud Gagé, si vous deviez nous dire quel est le chiffre qui vous a le plus étonné dans ceux que vous avez récoltés, quel est le fait qui vous a le plus surpris dans ceux que vous avez collectés?
Je pense, alors c'est un chiffre qui est bon, qui a vachement augmenté. L'année dernière, c'était 113%. Là, maintenant, on est à 117%. Mais c'est la dette. Parce que je me souviens que quand j'étais, c'est un chiffre bateau, mais que tout le monde connaît, mais je me souviens que quand j'étais en seconde et qu'il y avait un site internet, c'était la dette en direct, et que j'avais regardé, on était à 90%, et déjà ça me semblait énorme, je me disais que c'est pas possible d'être aussi haut, et déjà je m'inquiétais, je voyais chaque Français doit rembourser 30 000 euros, et là maintenant je vois chaque Français doit rembourser 50 000 euros, ça me donne le vertige. En fait, parce que déjà, on a du mal, on est une génération qui a du mal à pouvoir... on n'est pas comme la génération d'au-dessus où on pouvait s'acheter des appartements beaucoup plus facilement, à aller dans la vie active beaucoup plus facilement. Là, on a vraiment des barrières à l'entrée, et ce qui fait qu'on se demande si c'est pas la droite qui reprend le pouvoir, qu'est-ce qu'on va devenir ?
Qu'est-ce qu'on va devenir ? Et quel est le fait de gauche le plus révoltant quelle est la manière la plus insupportable qu'a la gauche de défendre son bilan ?
Alors, ce serait pas défendre son bilan, mais s'il y a bien une idée qu'elle a et moi qui me révulse, c'est pour tout ce qui va être sur Lyon-Turin. Le tunnel Lyon-Turin, la gauche est contre, alors qu'elle est pour, alors que ça permettrait justement de faire des économies. Faire des économies et de l'écologie, parce que ça passerait par des trains et non par des camions aujourd'hui.
Parfait. Arnaud Gagé, lorsque vous avez écrit La tyrannie de la bienveillance, donc disponible sur Amazon, voilà, pour un prix modique, vous avez évidemment cherché un éditeur. Est-ce qu'un éditeur vous a dit je le prends, mais il faut que vous corrigiez tel chapitre, ou je ne le prends pas parce qu'en fait les idées que vous exprimez sont sont nauséabondes ou...
Non, pour l'instant, c'est que j'ai pas eu de retour. j'ai pas eu de retour. C'est vrai que j'ai envoyé les livres, mais j'ai pas eu de retour. Ce qui m'a permis, en fait, d'avoir déjà des échanges avec certaines personnes qui ont lu le livre, qui m'ont permis de prendre en compte certaines corrections, ou même d'ajouter des chiffres. Donc, c'est sûr que si jamais il y a un éditeur qui se présente, bah, ça me permettra d'ajouter ces mises à jour.
En tout cas, je redis le plaisir que j'ai eu à lire La tyrannie de la bienveillance. C'est un répertoire d'arguments, c'est un répertoire de chiffres, c'est un répertoire de faits. Voilà, il y a non seulement Grigny et Gif sur Yvette, mais il y a tout le reste. Et c'est parfait dans les conversations pour parler aussi bien du racisme que de l'hôpital, pour parler de l'école comme de l'insécurité. Tous les chiffres y sont, et surtout, on démontre bien la manière dont un système s'auto-entretient sous prétexte de charité et de bienveillance, et en fait ne réussit à produire que la misère et le désastre. Merci beaucoup Arnaud Gagé d'avoir été avec nous ce soir.
Merci.